Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions après le naufrage en Centrafrique d'une baleinière transportant plus de 300 passagers sur la rivière Mpoko, près de Bangui. Le bilan encore provisoire fait état de 62 morts. Plusieurs dizaines de personnes sont portées disparues. Les recherches se poursuivent. Et en hommage aux victimes, hier, le président Faustin Archange Touadéra a décrété 3 jours de deuil national. L'heure est certes au recueillement, mais des questions font déjà débat, notamment sur la surcharge de cette péniche ou encore sur les moyens rudimentaires de la protection civile pour secourir les naufragés. Que pensez-vous de la gestion de ce drame et surtout, quelles leçons faudra-t-il tirer de cette tragédie? RFI vous donne la parole, vous nous appelez, vous continuez évidemment à nous envoyer vos réactions sur les réseaux sociaux. Le standard 33 9 693 693 70. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan Gomez.
Soyez le bienvenu et merci de nous écouter à Dakar. Vous avez des questions sur l'aide américaine à l'Ukraine.
Oui. Après plusieurs mois de blocage, le Congrès américain a voté une enveloppe de 21 milliards de dollars pour l'Ukraine. Comment cette aide va-t-elle être utilisée?
61 milliards pour être précis, d'aide à l'Ukraine. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Juan.
Spécialiste des questions de défense à RFI, il a fallu attendre 1 an et demi pour que le Congrès américain parvienne à mettre fin aux querelles partisanes entre démocrates et républicains et débloquer cette enveloppe colossale pour l'Ukraine, enveloppe qui sera principalement destinée à l'assistance militaire.
Oui, et enveloppe saucissonnée, hein, Juan, justement pour arracher le vote des élus républicains. Donc 20 milliards de dollars d'abord destinés à l'European Command Operation. Ce sont les forces américaines stationnées en Europe. C'est une forme de réassurance. 16 milliards sont fléchés vers la Security Assistance ou l'assistance à la sécurité en bon français, qui est un groupe de programmes autorisés en vertu du titre 22 du code américain. C'est la codification par matière des lois générales et permanentes des États-Unis et par lesquelles les gouvernements américains fournissent des matériels militaires. 14 milliards de dollars sont destinés au réapprovisionnement, ce sont les munitions. Mmh. Et enfin, 10 milliards seront versés à Kiev au titre de prêts remboursables.
Oui, 10 milliards qui permettront notamment au gouvernement ukrainien de continuer à payer les salaires et les retraites. Franck Alexandre, concrètement, avec cette super cagnotte, que veulent les Ukrainiens?
Recompléter 2 types de munitions en toute urgence. Ce sont d'abord les obus de 155 mm pour l'artillerie et enfin des missiles solaires pour protéger leur territoire contre les missiles et autres drones suicides tirés massivement par les Russes.
Donc l'idée, c'est d'essayer de rééquilibrer les forces sur le terrain. Vous avez une autre question, Ousmane?
Oui. L'Ukraine pourra-t-elle mettre en place un dôme de fer pour se protéger des attaques aériennes russes comme cela existe en Israël?
Oui, dôme de fer qui a prouvé son efficacité, Franck Alexandre, récemment, lors de la récente attaque iranienne contre Israël. Rappelons que 99% des drones et des missiles iraniens ont été interceptés. Et effectivement, la question d'Ousmane, elle est pertinente, elle est intéressante, puisque dans la foulée de cette attaque, le président Zelensky a déclaré « la même chose est possible pour protéger l'Ukraine ».
Ouais, c'est ambitieux.
Alors, est-ce réalisable?
C'est ambitieux parce que, vous l'avez dit, Israël, c'est minuscule, c'est un tout petit territoire. L'Ukraine, c'est une fois et demie la France.
Et Israël fait la taille de la région de Kiev, juste pour donner une idée
voilà.
Aux auditeurs.
Donc les Ukrainiens doivent à la fois protéger les lignes de front, protéger les sites énergétiques sensibles et protéger leurs villes, qui sont nombreuses. C'est compliqué, il faudrait beaucoup de systèmes. Alors le président Zelensky a demandé au moins 7 systèmes Patriot supplémentaires pour protéger le ciel. Rien que cette année, il le dit, l'Ukraine a été attaquée par près de 1200 missiles russes, plus de 1500 drones, 8500 bombes guidées. Kiev ne possède que quelques systèmes Patriot. Alors vous savez, un système Patriot, c'est un radar en quelque sorte qui va repérer l'attaque. Et 4 en général, on met 4 lanceurs dont chacun possède est doté de 4 missiles.
Et ça coûte très cher.
$1 milliard à peu près le système, et les missiles, un bon $1 million par missile. Et surtout, ce sont des missiles qui sont très longs à fabriquer. Dans le système équivalent français, le SAMP-T, franco-italien, le SAMP-T, ce sont des missiles Aster 30 qu'on met sur les lanceurs. Il faut à peu près 40 mois pour en fabriquer un. Donc, effectivement, c'est compliqué. Ça coûterait extrêmement cher, on n'en a pas assez. Nous, on a juste, par exemple, en France, le strict nécessaire pour protéger le territoire. Donc, on n'a pas vraiment de système à donner. Les Allemands en ont peut-être un peu plus. D'ailleurs, Olaf Scholz a promis d'en donner un système supplémentaire à l'Ukraine. L'inconnu, c'est, si vous voulez, jusqu'à présent, le système de défense ukrainien reposait sur une dualité. Des vieux missiles soviétiques, les Buk, pas chers, j'en ai beaucoup, qui arrivaient en fin de vie au milieu de la décennie passée. Donc, ils les ont conservés, ils les ont tirés massivement, puisque quand il y a une attaque, les Russes envoient des centaines de drones low-cost iraniens, les Shahed-136, pour saturer l'espace, et ensuite, ils tirent des missiles de croisière type Calibre. Effectivement, on ne va pas tirer des missiles patriotes contre des Shahed, on les réserve pour aller abattre les missiles de croisière russes. Donc voilà, est-ce qu'ils ont encore du Buk qui permet d'attaquer les attaques massives de drones pour réserver les patriotes aux missiles de croisière? Ça, on ne le sait pas, mais effectivement, ils ne pourront pas tirer contre des vagues, des nuées de drones low cost, des missiles patriotes à $1 million. Ça, c'est impossible.
Ousmane, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait des explications de Franck-Alexandre?
Oui, Juan Gomez, merci beaucoup.
Et bonne journée à Dakar, où on nous écoute sur les 92 FM. À bientôt, Franck-Alexandre.
À très vite.
Spécialiste des questions de défense, RFI. Ousmane nous appelait de Dakar. On reste au Sénégal. Bonjour, Bécaille.
Oui, Juan, bonjour.
À Toumboura, dans l'est du Sénégal, vous avez des questions sur votre nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
Oui, effectivement, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio du Monde, et plus particulièrement à ceux qui sont ici à Toumboura et à tous mes amis enseignants.
D'accord, ben voilà, le message est passé. Quelles sont vos questions, Bécaille?
Ce jeudi dernier, le président de la République sénégalaise a effectué sa toute première sortie à l'international en terre mauritanienne. Maintenant, je voulais savoir pourquoi Bassirou Diomaye Faye a-t-il choisi la Mauritanie pour sa première visite officielle en tant que président de la République.
Une visite d'amitié et de travail, a-t-on expliqué du côté de la présidence sénégalaise. Bonjour Léa-Lisa Westerhoff.
Bonjour Juan, bonjour Bécaille.
Correspondante permanente de RFI à Dakar, pourquoi le président du Sénégal a-t-il choisi la Mauritanie pour son premier voyage officiel?
Eh bien, c'est l'un des partenaires immédiats et historiques du Sénégal. Et d'ailleurs, une tradition de la diplomatie sénégalaise veut que le président nouvellement élu privilégie les voisins directs pour ses premiers voyages officiels. C'est la politique de bon voisinage. Et comme les relations entre les deux pays sont bonnes, avec des milliers de ressortissants qui vivent des deux côtés de la frontière depuis longtemps et des sujets économiques et sécuritaires importants qui lient les deux pays, le choix s'est porté sur la Mauritanie. L'autre raison, c'est que le président Ould Razouani est également président en exercice de l'Union africaine. Ce premier voyage officiel à l'extérieur des frontières du Sénégal devait donc servir à renforcer l'idée d'une volonté d'intégration africaine chère au président Bassirou Diomaye Faye. Le ministère des Affaires étrangères s'appelle d'ailleurs également ministère de l'intégration africaine. Et parallèle intéressant, en 2012, Macky Sall avait fait un choix similaire, mais dans l'autre sens, puisqu'il s'était d'abord rendu en Gambie et ensuite en Mauritanie.
Alors, vous parliez justement du ministre des Affaires étrangères, également ministre de l'intégration africaine. C'est vrai que Yacine Fall faisait partie de la délégation présidentielle qui s'est rendue à Nouakchott, tout comme Biram Souley Diop, le ministre de l'énergie.
Oui, et ce n'est pas un hasard, bien sûr, puisque l'un des gros sujets de ce voyage, l'un des thèmes cruciaux qui lie les deux pays, c'est ce grand gisement gazier GTA au large du Sénégal et de la Mauritanie. L'exploitation de gaz et des devises qui vont avec est très attendue. Elle était initialement prévue en 2022, mais elle a pris beaucoup de retard. Les deux présidents ont sans aucun doute donc parlé de ce sujet, d'autant plus que le nouveau président sénégalais a dit déjà vouloir renégocier les contrats gaziers et pétroliers. L'autre sujet sujet important lié aux infrastructures, c'est le pont de Rosso à la frontière sénégalo-mauritanienne. En construction depuis 2021, il doit faciliter les déplacements entre les deux pays qui sont séparés par ce long fleuve Sénégal. Enfin, il a été question de la pêche aussi, du renouvellement de 500 licences accordées à des pêcheurs sénégalais pour accéder aux eaux mauritaniennes. Et là aussi, c'est important pour le Sénégal puisque vous le savez, il y a un gros problème de raréfaction des poissons dans les eaux sénégalaises, d'où l'importance de pouvoir aller aussi pêcher en Mauritanie. Enfin, dernier sujet crucial qui lie les deux pays, la coopération sécuritaire, bien sûr, face à la menace djihadiste dans la région, pour laquelle la Mauritanie est un interlocuteur important. Et d'ailleurs, dès après la visite du président Bassirou Diomaye Faye, l'armée sénégalaise a communiqué sur une patrouille conjointe des deux armées qui a eu lieu la semaine dernière, entre le 16 et le 18 avril, le jour de cette fameuse visite officielle, justement.
Voilà, des opérations communes, des patrouilles conjointes entre l'armée sénégalaise et mauritanienne. A-t-on répondu à vos questions, Bekaï?
Oui, effectivement, elle a bien répondu à toutes mes questions.
Eh bien, on remercie Léa Lisa Westerhoff, correspondante permanente de RFI à Dakar. Des explications à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Vous nous appelez 339 693 693 70. Sinon, vous avez également la possibilité d'envoyer vos questions via nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. Si c'est par Facebook, envoyez-nous votre numéro de téléphone, évidemment, en message privé. Ça évitera que tout le monde connaisse votre numéro de téléphone. Jean-Claude, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour chers auditeurs de Radio France Internationale.
Ravi de vous avoir, on a eu quelques petits problèmes hier, on n'a pas pu vous prendre en direct dans l'émission. Vous appelez de la Côte d'Ivoire, vous êtes à Mans, et comme beaucoup d'Ivoiriens, vous êtes, on va dire, préoccupé par le prix du cacao dans votre pays, sujet qui vous intéresse au premier plan, puisque vous êtes vous-même cultivateur de cacao.
Tout à fait.
On vous écoute.
Je suis cultivateur de cacao. J'ai entendu que si le prix des fèves en Côte d'Ivoire n'augmente pas, c'est lié au système de vente par anticipation mis en place par le gouvernement. Alors ma question est la suivante. Pourquoi maintenir ce système?
Bonne question. Vous avez l'impression, Jean-Claude, de ne pas bénéficier de la flambée du cours du cacao sur le marché international, c'est ça?
Ouais.
Surtout que la tonne de cacao, je le rappelle, se négocie à un peu plus de 11 000 dollars, un peu plus de 10 500 euros, alors que les cultivateurs ivoiriens, eux, perçoivent 1 500 francs CFA, soit 2,30 euros le kilo pour la récolte intermédiaire. Bonjour, Séraphin Prao.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. C'est vrai que le kilo de fèves de cacao est passé de 1 000 à 1 500 francs CFA le kilo ces dernières semaines. C'est une augmentation conséquente tout de même, 50% de plus pour les cultivateurs ivoiriens. Mais en même temps, on a comme l'impression, et c'est le cas pour Jean-Claude, que ça ne reflète pas vraiment la réalité des prix du cacao sur les marchés internationaux.
Oui, effectivement, on ne peut pas comprendre le cacao se vende à 11 800 en moyenne. Hein, ces temps-ci, ce matin, j'ai regardé les chiffres, hein, c'est comme le prix est fixé quotidiennement à la bourse de New York.
Tout à fait.
On ne peut pas comprendre que, comme vous le disiez tout à l'heure, à ce montant-là, qu'on donne des prix dérisoires, n'est-ce pas, aux cacaoculteurs ivoiriens, pendant qu'on sait que à côté de nous, en Guinée, au Libéria, au Ghana et au Cameroun surtout, puisque les Ivoiriens ont une relation très lointaine, mais vu les relations qui nous... Donc on compare à chaque fois les prix entre ces deux pays-là, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et aujourd'hui, ils sont aux alentours de 4 200, 4 500 si vous voulez. Mmh. Et donc vous voyez, la différence est tellement énorme que je comprends bien ce que Jean-Claude dit. J'ai écouté sur vos antennes la semaine dernière le ministre Adjoumani.
Effectivement, mais je pense le ministre de l'Agriculture qui répondait en direct effectivement à une question d'auditeur. Mais alors justement, la différence, il faut quand même l'expliquer le plus simplement possible parce que le sujet est quand même complexe. Au Cameroun, le modèle est libéral, alors que en Côte d'Ivoire, le gouvernement fixe d'une certaine façon les prix.
C'est ça. Bon, en fait, Vous savez, Rouen, nous avons traversé des moments difficiles. Déjà, même dès les années 1960, déjà, Ofo-Boigny a voulu protéger non seulement les paysans en créant ce qu'on appelle la caisse de stabilisation, qui est, on va dire, l'ancêtre du système actuel. Hein. Et puis bon, la caisse a servi, il faut dire la vérité, à financer les grands projets structurants de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle Ofo-Boigny disait que l'économie de la Côte d'Ivoire reposait sur l'agriculture. Après, aux alentours des années fin 90, sous la houlette de la Banque mondiale et du FMI, on a obligé effectivement nos États à aller vers la libéralisation. Le Cameroun d'ailleurs a commencé à libéraliser en 1999. Et nous, en Côte d'Ivoire, il y a eu une mauvaise expérience, voyez-vous, une très mauvaise expérience de la libéralisation, il faut dire la vérité, parce qu'il y avait trop d'intermédiaires entre effectivement le paysan et les exportateurs.
Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, à cette époque, le cacao ivoirien était souvent payé à moins de 500 francs CFA le kilo.
Effectivement, donc c'était le désordre lié effectivement à la création d'une multitude effectivement de structures inopérantes d'ailleurs, mais qui étaient budgétivores. Donc quand M. Ouattara a pris les rênes en 2011, la première chose qu'il a engagée, c'est une réforme au niveau de ce secteur très important, parce que n'oubliez pas que le cacao lui seul pèse pour 15% du PIB de la Côte d'Ivoire, oui. 40% des recettes d'exportation de mon pays et 12% des recettes fiscales. Donc, et le cacao fait vivre, on va dire, 24% de la population ivoirienne, et parmi ces 24%, 80% sont pauvres, ouais, comme le dit M. Jean-Claude. Donc du coup, le président a trouvé un système hybride, selon ses propres termes, entre la libéralisation et l'administration qui était là avant, c'est-à-dire que comme la caisse stable. Donc il trouve ce qu'on appelle le conseil café cacao, où on va se baser sur les prix passés et les prix actuels, et on se donne une moyenne qu'on appelle le prix moyen CAF, c'est-à-dire le prix de vente anticipé à la moyenne.
Mais cette moyenne, justement, Séraphin Prao, elle permet aux cultivateurs ivoiriens, quoi qu'il arrive, d'avoir un prix plancher, c'est-à-dire que là, effectivement, les cours flambent, mais s'ils rechutent du jour au lendemain, celui qui risque de perdre plus, c'est le cultivateur camerounais, et non le cultivateur ivoirien, puisque quoi qu'il arrive, il aura ses 1500 francs CFA le kilo.
C'est ça. En théorie, le gouvernement nous vante deux mérites fondamentalement, je veux dire deux catégories. Premièrement, le gouvernement nous dit, bon, vous savez, l'économie repose sur l'agriculture, le cacao surtout. Donc moi, une telle mesure me permet d'assurer la durabilité de la production dans mon pays. Et puis deuxièmement, il dit, au niveau macro, moi, ça m'arrange, hein, puisque cela va faciliter le financement de la campagne cacaoyère par les exportateurs, voyez-vous. Maintenant, il dit, comme vous le dites vous-même, il dit au niveau de le bien-être, n'est-ce pas, des planteurs, s'il advenait et que le prix baisse, par exemple, sur le marché, ils vont perdre. Et comme ce sont des illettrés, entre guillemets, il faut dire la vérité comme ça, ils savent pas spéculer sur le marché, donc du coup, il faut que je les protège. Mais quand nous regardons de près, il y a un souci, Roland Gomez. Je vous fais de simples comparaisons, vous verrez.
Allez-y.
Depuis que le gouvernement pratique ce système de prix de vente anticipé à la moyenne, nous avons vu qu'en 2000, j'ai regardé les statistiques de comparaison au Cameroun et en Côte d'Ivoire. En 2013, au Cameroun, le prix se situait entre 750 et 1275, alors qu'en Côte d'Ivoire, il était de 100. En 2015, l'année électorale, Monsieur Jean-Claude, il est là, il peut, si j'ai du faux, paraître.
Allez-y.
Cacao est 50. Le gouvernement Ouattara a augmenté à 150, c'est passé à 1000 francs. Alors qu'au Cameroun, on était entre 800 et 1515 francs. Quand vous prenez encore en 2019, il dit 2019.
Le dernier exemple, c'est voilà. Bravo.
Voilà. Le cacao se vendait à 1200 au Cameroun, alors qu'il se vendait à 850. Vous voyez que, à mon humble avis, oui. Le coût à terme dont nous vantait le mérite par rapport au coût spot, ce n'est pas vrai. Parce que le coût spot, c'est ce qui se pratique au Cameroun, il est toujours élevé par rapport au coût à terme dont nous vantent le mérite. Donc, quelque part, je pense que ce n'est pas bien honnête de la part du gouvernement en fixant de façon autoritaire
les prix. En tout cas, le ministre Kobeno Adjoumani, ministre de l'Agriculture, s'est expliqué dans cette émission, c'était il y a une dizaine de jours. D'ailleurs, la vidéo de son passage dans l'émission a été très suivie. 1 100 000 vues, c'est dire si ce sujet, le prix du cacao, intéresse de nombreux auditeurs. Merci à vous, Séraphin Prao. Jean-Claude, bonne journée à Mans. Juste pour le saluer et le remercier, et surtout m'excuser. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan.
Du service des sports. Voilà, c'était juste un passage. Vous avez demandé de venir.
Ça a été mon passage le plus rapide dans Appel sur l'actualité.
Ouais, mais vous reviendrez très vite demain, voire après-demain, pour répondre à des questions. Foot, on parlera avec vous du foot anglais.